Alors le pardon, c'est certainement un sujet d'une très grande importance pour nous tous. C'est aussi un sujet délicat, souvent mal compris. Personne ne veut trop y réfléchir au pardon. Et c'est peut-être un sujet qui met mal à l'aise parce qu'on a tellement de difficultés avec lui. On aimerait bien être pardonné, et souvent on a du mal à pardonner nous-mêmes. On a peut-être appris que quand on dit « je te pardonne », il faudrait que ce soit comme si rien ne s'était passé. Et puis, notre société nous enseigne que pardonner, c'est être faible. Alors pour parler du pardon, on va commencer à lire un texte dans Matthieu, Matthieu 18, à partir du verset 21. Pierre s'approcha de lui, et bien sûr c'est du Seigneur dont il s'agit, et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le Seigneur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. Quand il fut sorti, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste dire quelque chose au sujet des paraboles. Les paraboles, c'est un peu des fables comme La Fontaine. Il y a une histoire, et c'est pour enseigner une vérité. Et dans les paraboles de Jésus, normalement, on trouve qu'un thème, même si autour de ce thème, il y a beaucoup de détails intéressants. Et les détails dans cette parabole, Jésus les utilise pour augmenter l'impact de l'histoire ou pour la mettre dans un contexte connu de ses auditeurs. Mais il ne faut pas essayer de construire une théologie à partir de ces détails-là. Il serait bien sûr possible de faire toute un débat sur la signification de la femme du serviteur, de ses enfants, des compagnons, même des bourreaux, mais ce serait, je pense, sans intérêt, l'enseignement de cette parabole, c'est le pardon. Est-ce que vous vous êtes rendu compte déjà qu'il est certainement plus difficile à pardonner quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de l'Église qu'à tout le reste du monde? Et il y a certainement une raison à cela. C'est parce que ceux qui sont le plus proches de nous, c'est eux qui nous font le plus mal. Pas le plus de mal, mais le plus mal. Or, revenons à l'histoire. Le roi en question veut demander des comptes à ses serviteurs. Ses serviteurs ont des dettes envers le roi, et le roi exige simplement qu'ils règlent leurs dettes. La Bible nous dit aussi qu'on a une dette à payer. Cette dette, le péché, c'est le mal que nous avons fait aux autres, et surtout à Dieu. Quand nous péchons, c'est toujours contre Dieu. Rappelez-vous David. David qui venait de commettre un adultère et fait mourir le mari. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 51 ? J'ai péché contre toi seul. Alors comme le roi de la parabole, Dieu va demander des comptes aux hommes et aux femmes pour leurs péchés. Cela se passera dans l'avenir, au dernier jour, quand Dieu jugera ce monde. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui portent encore la dette de ce péché, il y aura des conséquences. L'apôtre Paul nous dit que la conséquence du péché, autrement dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et pour ceux qui n'acceptent pas que Jésus paye leurs dettes, il y aura des comptes à rendre. Et cette dette, un peu comme celle de nos beaux pays qui augmente tous les jours, tant qu'elle reste impayée, elle augmente. Donc ceux qui n'acceptent pas que Jésus paye leurs dettes, ils auront des comptes à rendre. Le serviteur devait 10 000 talents. Un talent, c'était 40 kilos d'argent à peu près, au cours actuel de l'argent, 450 euros le kilo. Ça fait 18 450 euros. Le salaire qu'un homme bien payé de l'époque pouvait gagner en un an. Donc le serviteur devait 184 millions d'euros au roi. Une bagatelle. Pas autant quand même que Jérôme Kerviel, qui doit lui rembourser presque 5 milliards. Jérôme Kerviel, on sait comment il a contracté cette dette. Le serviteur, Jésus ne nous en parle pas. Il nous montre juste qu'il lui était impossible de la rembourser. Et pour nous, nous pouvons essayer aussi de payer la dette du péché par nous-mêmes. Nous pouvons dire comme le serviteur, « Seigneur, aie patience, je paierai tout. » On peut toujours essayer de le faire du bien, être consciencieux au boulot, plein de bonnes autres choses, mais on est irrémédiablement en surendettement. Le psaume 49 nous dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. » Et comme le serviteur, tous les hommes ont besoin de quelqu'un qui peut payer leurs dettes. Et là, on voit que le roi, par son propre choix, remet la dette au serviteur. J'imagine que le serviteur devait plutôt attendre d'être condamné, s'attendre à être vendu pour payer la dette, c'était un peu la coutume de l'époque, et au lieu de cela, il se retrouve libre, sa dette a été annulée, supprimée, effacée, pardonnée, plus de dette. Et par son propre choix, Dieu a fait en sorte que notre dette à nous puisse être pardonnée. Il a envoyé son Fils dans ce monde pour mourir afin de payer notre dette, celle que nous ne pouvions pas payer. Et Jésus avait vécu une vie parfaite et Dieu a accepté son sacrifice, le sacrifice de sa vie, pour payer la dette accumulée de notre péché. Sur la croix, tous nos péchés ont été placés sur Jésus. Il est devenu péché pour nous, lui qui n'avait jamais péché. Dieu l'a jugé, il a subi la mort que nous aurions dû subir. Et en échange, nous pouvons avoir la justice de Christ, sa justice, placée sur nous comme nos péchés ont été placés sur lui. Un échange, quoi. Dieu nous offre en Jésus quelqu'un qui paye notre dette et nous sommes déclarés justes devant Dieu. Plus de dette. Alors celui qui profite de cet échange en plaçant sa foi en Christ devient chrétien et sa vie commence à refléter ce que Dieu a fait pour lui. Et dans cette parabole, c'est à ce moment-là que l'histoire s'écarte du chemin que nous pourrions penser qu'il prend. Le serviteur a un collègue qui lui doit 100 deniers. Le denier, c'est 4 grammes d'argent, à peu près 2 euros. Le salaire d'un journalier de l'époque, on voit ça en Matthieu 20. 100 deniers, c'était 3 mois de salaire. Une somme conséquente, mais pas non remboursable. Cependant, le collègue, il n'a pas d'économie, il ne peut pas payer tout de suite. Et nous attendons à ce que le serviteur, au moins compassion de son copain, il lui laisse au moins un délai. Il lui remette au mieux la dette comme le roi lui avait fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le saisit, l'étrangle en disant « paye ce que tu me dois ». Et peu après, le collègue se retrouve devant les bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Alors la fin de l'histoire, c'est que le roi a appris ça, il rappelle son serviteur et le remet lui aussi entre les mains du juge. Ne devais-tu pas avoir pitié toi aussi de ton compagnon que j'ai eu, comme j'ai eu pitié de toi? Et le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Je sais pas comment il a fait. Et enfin, la morale de l'histoire, la morale de la fable, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors quand quelqu'un nous blesse, il y a au moins deux façons négatives de réagir. En gros, la première, c'est de lui dire « t'inquiète pas, c'est rien, pas de problème ». Et puis, au fond de nous, la colère, elle boue. Et l'autre, c'est de lui dire « non, tu es allé trop loin cette fois-ci, je te pardonne plus ». Et nous restons fâchés avec la personne qui nous a blessés. Ce qui se passe, c'est que dans les deux cas, il y a ce que la parole appelle une racine d'amertume qui pousse en nous, qui nous dévore, qui étouffe notre joie, notre paix et notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est difficile à entendre. Vous ne trouvez pas ? Si je ne pardonne pas mon frère de tout mon cœur, Dieu ne me pardonne pas non plus. Quand on refuse de pardonner à son frère, on refuse aussi la bénédiction de Dieu. Alors nous ne parlons pas certainement ici de notre salut éternel. Nous ne cessons pas d'être enfants de Dieu. Il ne cesse pas de nous aimer. Mais par contre, peut-être qu'on n'a plus sa bénédiction. Tant que nous gardons cette rancune envers notre frère, et si nous n'avons plus cette bénédiction, nous devenons misérables. Et notre refus de pardonner, ça montre surtout que nous n'avons pas compris à quel point et de combien nous avons été pardonnés. Si je ne pardonne pas aux autres, c'est parce que j'ai pas compris combien mon propre péché est grave et combien Dieu m'a pardonné. Et c'est là le thème majeur de cette parabole. Il faut pardonner parce que nous avons été beaucoup pardonnés. Nous n'avons pas le droit de garder notre amertume, notre rancune, notre colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère contre nous. Le pardon vient directement de l'amour. L'amour de Dieu pour nous, puis l'amour que nous avons pour les autres. C'est ce que le serviteur n'avait pas compris. Et il l'a payé cher. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Et je crois qu'il y en a une qui est plus pressante que les autres. Où se trouve la repentance dans cette histoire? Pour pardonner à quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il soit repentant? Or, bien sûr, c'est ce qu'on peut espérer. Si la personne qui nous a blessé se repent, on peut rétablir une relation avec elle. On peut laisser la blessure derrière nous et avancer ensemble, réconcilier. Entre frères et sœurs, ça devrait être comme ça. Entre membres d'une même famille aussi. Mais si c'est pas comme ça, que faire? Quand celui qui nous a offensés ne se repent pas. Dans cette parabole, ne mentionne pas la repentance. Elle donne quand même une vague idée du sujet par rapport au cri du serviteur « Seigneur, aie patience envers moi ». Mais est-ce une repentance? Il a juste reconnu sa dette. Mais comment faire autrement? Il veut encore se sauver lui-même. C'était comme ça aussi pour le camarade du serviteur. Et il n'y a pas assez de précision là-dedans pour bâtir une doctrine sur la repentance. Par contre, dans la réponse du Seigneur à Pierre, il me semble que le frère qui offense 539 fois ne s'est pas repenti jusqu'alors, ou alors il aurait cessé, ou alors je ne comprends pas. Et pourtant, Jésus dit à Pierre, « Pierre, pardonne quand même. » Ce qui nous apprend qu'il nous faut une attitude de pardon, quelle que soit l'attitude de repentance ou de non-repentance de l'autre. Et si Jésus a raconté cette parabole de cette façon, c'est parce que certainement il veut que nous nous examinions un peu nous-mêmes. Pardonnerai-je à mon frère quand il aura péché contre moi? Il y aura encore beaucoup à dire au sujet du pardon, et je ne dirai pas tout. Mais dans cette parabole, on a une base pour prendre la décision de pardonner quand nous avons été offensés. Et il y a au moins quatre choses qu'on peut dire à propos du pardon. Pardonner veut dire que nous n'avons plus rien contre la personne qui nous a offensés. Pardonner veut dire que nous abandonnons notre colère, notre amertume, sans pour autant nier le fait que nous ayons été blessés. Les blessures prennent souvent du temps pour guérir. Et c'est idiot de dire « ce n'est rien ». C'est quelque chose. Et ce quelque chose peut être important. Le pardon admet ce fait. Il m'a blessé, mais je pardonnerai malgré cette blessure. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et puis pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y aura peut-être des conséquences pour celui qui nous a offensés. Notre pardon ne l'absout pas de la responsabilité de ses actes. Mais nous renonçons au droit de nous venger de lui. Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Puis pardonner veut dire enfin que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons été nous-mêmes pardonnés. Dieu ne tient plus compte de notre péché. Nous n'avons plus de compte à rendre, à lui rendre à ce sujet. Alors il se peut que nous soyons tellement blessés par la faute d'un autre que nous nous sentons incapables de pardonner. Peut-être que depuis longtemps, cette affaire-là traîne dans notre cœur, mais nous n'arrivons pas à pardonner vraiment. Alors si nous n'y arrivons pas, il faut demander de l'aide. On peut demander de l'aide à Dieu pour réellement pardonner. Demandons-lui d'avoir dans notre cœur le désir de pardonner. Peut-être nous gardons toujours de l'amertume ou de la colère contre quelqu'un dans notre cœur. C'est peut-être le moment de le confesser, encore une fois, de demander à Dieu de l'aide. Si nous savons que quelqu'un a quelque chose contre nous, c'est maintenant, peut-être, devant Dieu, le moment de penser à être réconcilié. Prenons la résolution de mettre ces choses en ordre, si cela compte vraiment pour nous. Dans le psaume 126, on trouve ces paroles « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse ». Pardonner, c'est pas facile. C'est même coûteux. Mais si nous sommes obéissants à Dieu pour cela, que nous pardonnons les offenses à ceux qui nous les ont faites, les larmes deviendront allégresse. Et finalement, pour pardonner, il nous faut aussi la grâce de Dieu. Pardonner, c'est prendre une décision, mais on peut souvent ne pas la prendre tout seul. Celui qui nous a pardonné est capable de nous aider à pardonner aux autres. Même quand les sentiments nous trompent et qu'on veut rester blessé tout seul dans notre coin. Et puis pardonner, c'est renouer une relation, une communion. Et c'est indispensable pour l'Église. Jésus, dans sa prière, dans Jean, dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le pardon est donc forcément nécessaire pour que l'Église puisse témoigner ce qui est en fait c'est sa volonté, sa vocation première, peut-être sa vocation unique. Alors, ne restons pas seuls, blessés, abattus dans notre petit coin. Amen.